Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi comme librairie.
Malheureusement pour les non-dits et les on-dits, l'inédit, c'est moi. J'ai la sensation de le savoir depuis toujours, mais je l'apprends officiellement sur le tard, par téléphone. 30 ans de silence, ça laisse le temps de chercher ces mots. Pire que la fille interdite, la fille par ses mots dites.
Pour ce nouvel épisode de l'Affranchi Podcast, nous recevons Aurélie Olivier à l'occasion de la parution de son ouvrage « Mon corps de ferme » aux éditions du Commun. C'est parti. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Soizig.
« Mon corps de ferme », ça a été quand même une sacrée lecture. Dans tout ton chemin d'écriture, j'ai l'impression en fait que tu nous laisses la place, c'est-à-dire que tu ne nous assailles pas tout de suite de cette histoire qui est quand même assez impressionnante. Et tu nous emmènes au fur et à mesure dans cet univers, qui est un monde en soi, puisque c'est le monde rural, mais qui est aussi ta vie. On sait aussi ton amour de la poésie, ton amour des mots, ton amour de la littérature. À quel moment, la grande question, à quel moment t'as décidé d'écrire ?
Je pense qu'en vrai, j'ai toujours eu envie de l'écrire, et puis qu'après, et c'est aussi raconté dans le livre, il y a des moments... dans la vie où on comprend qu'en fait on va peut-être pas pouvoir écrire à 86 ans, que du coup ça devient un peu urgent. Et je pense que finalement ça c'est assez récent, donc je l'ai écrit après avoir publié Lettres aux jeunes poétesses, et ça je l'avais pas, qui est publié aux éditions de l'Arche, et je l'avais pas anticipé, mais je pense que Lettres aux jeunes poétesses pour moi c'était le premier pas d'écriture. C'est quand même demander à 21 poétesses écrivait une lettre à une jeune poétesse. J'avais pas du tout pensé que je pouvais être la destinataire de, de ces lettres, mais après, en re-regardant le truc, je dis « ah ouais, ok ». Et les fées à qui je dédie aussi ce recueil, c'est entre autres les personnes qui ont écrit dans ce recueil « Lettres aux jeunes poétesses ». Et après, en vrai, il y a un an, un peu moins d'un an, j'ai pris 2 semaines de vacances. Que c'était, je sais plus si c'était des vacances ou... En tout cas, j'ai pris 2 semaines en février pour écrire, pour poser ça. Et j'avais déjà plein de bouts de texte, des choses comme ça. Et en fait, j'ai passé 2 semaines à réagencer les choses, penser les choses, réécrire. Mais en vrai, c'est comme si j'avais écrit tout le temps dans ma tête avant, sans passer sur le papier. Même depuis toute petite, quoi, en fin de compte.
Donc tu veux dire que au final, même si tu n'écrivais pas, tu avais l'impression dans ta tête d'avoir cette continuelle idée d'écrire.
Ouais, c'est ça. Mais ça, en vrai, c'est un truc que je fais tout le temps en permanence sur des tas de sujets. Mais en tout cas, ce sujet-là de l'enfance, et plutôt que rural, je voudrais vraiment dire agricole. Parce que je pense qu'il y a vraiment... Et d'ailleurs, il y a 1000 manières d'habiter la campagne, 1000 manières de grandir dans une ferme. Et donc, moi, c'était plutôt une ferme conventionnelle, traditionnelle. Ouais, je crois que j'écris en permanence. Et après, c'est vraiment la question d'autorisation, quand on pense qu'à un moment donné, ça peut intéresser d'autres personnes que soi-même. Toutes ces questions-là, vraiment d'autorisation, qui ont été un peu quand même clairement réglées dans Lettres aux jeunes poétesses pour moi, en lisant les textes que j'ai reçus.
C'est très beau de se dire que tu participes à créer un livre qui te permet, toi, d'en créer un autre.
Ouais. Je ne l'avais pas vu, c'est après. Évidemment, il y avait un truc... mon inconscient travaillait pour moi, quoi. Il était bon sur ce coup-là. C'est pas toujours le cas, mais ouais.
Dans le process d'écriture, ou en tout cas dans la façon que tu as de nous amener en fait petit à petit, même si tu nous confrontes à ton histoire assez vite, et je dis confronter parce que vraiment il y a un moment donné où on a aussi l'impression que tu as besoin de ça. C'est toi et ton histoire. Bon, nous on est entre vous, mais il y a quelque chose de limite du duel, de se dire en fait je vais régler un peu mes comptes. Il y a quelque chose quand même d'un rythme d'écriture qui oscille et qui est différent. C'est quelque chose que tu as en conscience ou c'est vraiment moi qui ai lu avec mes pics d'émotion?
Alors, je pense un peu des deux. Après, je tiens vraiment à préciser que vraiment, je ne voulais pas régler mes comptes pour le coup. Régler ses comptes, je ne sais pas avec qui, avec quoi, mais en tout cas, c'était pour le coup, je pense, un des trucs qui a fait que j'ai mis du temps à écrire. Quand on choisit d'écrire sur un milieu où il y a 2 suicides par jour, en fait, justement, on a très, très peur de prendre la parole et de faire souffrir un milieu qui souffre déjà énormément. Donc, moi, je pense que plus que régler mes comptes... ou alors, s'il s'agit de régler mes comptes, c'est avec une société toute entière. Et ça, je tiens vraiment à ce que ce soit entendu. C'est vraiment ça que je voulais faire. Et non, c'était en fait une tentative, enfin, c'était une manière de comprendre. Donc je pense qu'en fait, alors c'est peut-être pas aux mêmes endroits, mais ces moments-là, en fait, c'est moi aussi qui cherche en permanence, en fait. Et là, pour le coup, enfin, c'est vraiment ce qu'écrit Audre Lorde dans La poésie n'est pas un luxe, quoi. La poésie comme manière de comprendre la complexité d'un terrain, d'un objet.
Mais c'est vrai que alors, je pense que quand tu parles de régler tes comptes, il y a quelque chose de peut-être juste se mettre dans l'ordre, dans le sens où, bon, en fait, là, il s'est passé ces 30 ans de silence. Donc ça, si tu le notes. Et en fait, il faut que je comprenne l'ordre de ma vie. Donc il s'est passé ça, il s'est passé ça, je me suis sentie comme ça, puis il s'est passé ça, et il y a eu ce réveil, et il y a eu ci, et j'ai dit, et j'ai pas dit, etc. Et en même temps, enfin, moi, quand je te lis, c'est de me dire, mais en fait... mince, quoi. Enfin, il a fallu 30 ans pour que ça se mette dans l'ordre et que peut-être, d'une certaine manière, je comprenne, avec sans doute un certain recul, ce qu'a été cette vie-là, cette première vie-là.
Ouais. Mais ça, je pense, pour le coup, c'est toutes les personnes qui sont... Enfin, du coup, pour préciser ce dont on parle, je pense que toutes les personnes qui savent pas comment elles sont nées, quelle est l'histoire de leur naissance, c'est vraiment un trou qui du coup, voilà. Après, en vrai, moi, j'ai eu la chance que ça me soit révélé à un moment donné, que je connaisse, en fait, la manière dont je suis née, d'où je viens. Et en fait, voilà, tout... Enfin, oui et non, mais en tout cas, un certain nombre de choses qu'on savait sans savoir, c'est clair à ce moment-là, ouais.
Tu nous invites à entrer dans ton texte par une page qui est quand même assez impressionnante. J'engraisse, tu engraisses, il y a quelque chose de l'agriculture comme endroit de nourriture, de préparation, de découper, d'installer les plats, etc. Enfin, il y a quelque chose d'une image d'abondance, de gras, de... Je sais pas, en fait, moi, directement, en fait, tu me plonges dans un... d'endroits agricoles que je lis beaucoup à ce monde qui nourrit les autres, en fait. Tu passes directement.
Ouais, et en même temps, dans ce premier poème qui est du coup sur le fait qu'on abatte un cochon dans la cour, qui est une scène que j'ai vraiment vécue, qui n'existe plus aujourd'hui parce qu'en France, en fait, si on a des animaux et qu'on souhaite les manger, ça passe... par l'abattoir, mais c'est un truc que j'ai vécu petite, vraiment, de voir les tantes, la grand-mère faire la charcuterie dans le garage et tout ça. Et moi, en fait, à ce moment-là, je pense que j'étais vraiment toute petite. Et la dernière strophe, en fait, du poème, c'est « Dans le hangar devenu boucherie, les femmes solides tournent la manivelle, remplissent les intestins avec la farce, rendent le cri du sacrifice comestible. » Et ce passage-là, il ouvre, donc il situe, et en même temps, c'est une scène assez... qui existait à mille époques, et à ce moment-là, il y a encore un don contre don. Enfin, j'ai l'impression qu'il n'y a pas encore la folie de l'agriculture industrielle, il y a un truc encore très matériel où, ouais, on tue pour manger, il y a un truc où on comprend... Enfin, il y a un truc de sens qui est encore là, qui disparaît au fur et à mesure, en fait, que la distance se creuse entre les différents êtres vivants qui font qu'une ferme est une ferme.
Tu nous présentes ce monde agricole par des souvenirs, des ressentis, cette histoire de sens dont tu parles, qui permet vraiment, j'ai l'impression qu'on se... représente en fait une exploitation familiale. C'est quelque chose de... On est tout le temps ensemble, on fait plein de choses, les enfants sont extrêmement inclus.
Ouais, ouais, bah c'est un corps de métier où encore les enfants travaillent en fait, et même en France. Enfin, je sais pas si vous allez à la campagne parfois, voir si vous avez grandi là-bas, mais en fait les enfants sont sur les tracteurs. Et du coup, moi je suis une enfant qui a travaillé à la ferme depuis mon plus jeune âge en fait, enfin, dès que j'ai pu tenir une fourche.
Et donc on suit... Et toi, ton intime, ton livre personnel, donc on suit ton histoire personnelle, mais aussi l'évolution, en fait, de ce fameux monde agricole et de ce que toi aussi tu vis à cet endroit-là. C'est-à-dire que oui, il y a ces situations très concrètes de voir les choses se préparer, de les manger, de la continuité de la vie de la ferme, et que petit à petit, en fait, toi, tu vois comment elle se transforme. Et ça va être une partie assez importante de ton écriture, de montrer ce que ça a créé, en fait, la modernisation, l'arrivée de l'industrialisation, et comment il y a quelque chose aussi de... en deux temps, c'est-à-dire que c'est des familles qui ont vu quand même leur rythme de vie beaucoup changer, des espaces se prendre, des façons de consommer aussi qui ont été différentes. Ouais. Cet endroit-là, en fait, de donner une image sur un long temps quand même de cette vie à la ferme, on sent bien que c'était, enfin tu le dis depuis le début, il y a quelque chose de très important pour toi en fait, de défendre ce milieu-là et de le montrer en réel. Ça a été, parce que tu mets des citations, tu montres bien qu'en fait, on n'est pas dans de la fiction sur la ferme. C'est vraiment une réalité, en fait.
Ouais, et mais c'est pas non plus ni régler mes comptes, ni le défendre, quoi. C'est juste donner la représentation que moi, j'en ai depuis l'endroit où j'étais, à savoir, du coup, d'être vraiment, d'avoir grandi jusqu'à mes 18 ans, et puis après, d'être partie aussi vite que possible. Sauf que bah, l'enfance, évidemment, en tout cas, dans mon cas, elle m'a rattrapée à un moment donné. Il fallait que je comprenne ce que ça avait fait, et aussi de voir comme ça le capitalisme agroalimentaire, enfin voilà, ce que ça fait entre les gens. Ce qui se joue, enfin en fait comment le lien avec les bêtes, enfin ce que ça dit après des relations qui se tissent entre les gens, enfin comment en fait le capitalisme nous rentre littéralement dans le corps. Et ouais, ça c'était important, et d'avoir une représentation qui soit le plus juste possible aussi, parce que bah, j'avais la chance de... Enfin, la chance d'une certaine manière, en tout cas. Enfin, pour le coup, c'est vraiment... Je sais de quoi je parle, enfin, de par mon expérience, en tout cas, de ces 18 premières années. Et... ouais, c'est ça. Et une nécessité aussi d'être très, très juste... du coup, quitte à travailler, enfin, j'ai pas mal travaillé les archives, j'ai fait un certain nombre de recherches qui sont pas toutes dans le livre, mais je pense qu'ils, moi, me rassuraient, parce qu'en fait, c'est tellement dingue l'existence d'une ferme aujourd'hui, la violence, que en fait, j'ai eu besoin d'aller aussi vers des écrits savants, ça se voit pas forcément dans le texte, mais pour bah, m'assurer que j'hallucinais pas mon enfance, en fait, que ça se passait bien comme ça. Et ouais, ça se passe bien comme ça. Enfin, en tout cas, je suis pas la seule à le dire, en fait. Et là, enfin, le livre, il est sorti il y a moins de 15 jours, et les retours que j'ai d'autres enfants d'éleveurs, de personnes qui connaissent très très bien le sujet, me rassurent, parce qu'en fait, moi, en plus, pour le coup, j'étais partie tellement loin de mon milieu d'origine, le plus loin possible. Enfin, c'est ce que je croyais, et que je me disais, bah, déjà aussi, parce que du coup, j'ai passé 18 ans à la ferme, j'ai passé 18 ans loin de la ferme, j'ai 36 ans, et du coup, j'avais aussi beaucoup d'appréhension de parler avec du mépris de classe, par exemple, avec une... Enfin, voilà. Donc, je pense que cette précision, elle est liée à ça, être au plus juste, et surtout que, enfin, j'utilise des archives, j'ai vu beaucoup de choses savantes, et puis j'ai regardé aussi des choses plus mainstream, populaires, et enfin, à un moment donné, je détourne l'émission L'amour est dans le pré, enfin voilà, des représentations catastrophiques. Il y a des extraits réécrits de Marie-Claire, mais enfin, il y a toute une série comme ça, une imagerie d'une France avec ses petits paysans. Enfin, là encore, dans le métro, il y a, je sais pas, Jérôme qui cueille les choux-fleurs. Enfin, et en fait, enfin, moi, je sais, en fait, enfin, le marchand de légumes, je vois très bien, en fait, à quoi ressemblent les serres en question. Donc, il y a comme ça toute une imagerie pastorale, quasi, de la paysannerie, qui dénue, enfin, qui nie, en fait, la violence de l'affaire, ce qui arrange ben, un certain nombre de personnes, quoi. Mais du coup, ça crée des silences qui, ouais, qui mènent au pire, je crois. Ouais.
Mais c'est sûr que, en fait... Tu entremêles tous ces endroits d'information. Donc, en effet, il y a des chiffres, il y a des... Tu reprends certaines constructions de pubs, de slogans, de cette fameuse romantisation de la ferme, ouais, avec l'amour et dans le, ouais, pré. C'est mon choix. Il me semble qu'à un moment donné, l'émission... C'était, je ne sais, ouais, plus si c'est mon choix, mais où il y a ce truc de... l'agriculteur est celui qui vit dans un milieu incroyable, avec la nature, avec... Enfin, il y a tout un... En effet, ce fameux discours qui dissocie complètement, en fait.
Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, moi, du coup, je grandis dans les Côtes d'Armor, et finalement, en fait, c'est vraiment des mondes qui peuvent être assez clos, c'est-à-dire que tous les enfants que je rencontre à l'époque jusqu'au collège, enfin, c'est vraiment des mondes ruraux, agricoles. L'accès à l'information, en tout cas pendant tout un temps, il n'est pas évident. Et finalement, ce qui nous arrive, enfin, moi, les infos qui m'arrivent et qui me marquent le plus, moi, j'adorais, j'ai énormément regardé la télé quand j'étais petite. Et c'est donc tout à coup, il y a à la fois, par exemple, la mammite, qui est la maladie la plus récurrente chez les. Chez les vaches, qui sont du coup exploitées pour donner du lait, vivre beaucoup moins de temps que prévu. Et en même temps, petite, il y avait vraiment ce slogan hyper sexualisé, cette pub, les produits laitiers des sensations pures. Et voilà, et en fait, c'est tout ça qui se croise en permanence. Et en fait, de les mettre côte à côte, ça dit la violence. Et ce que je trouvais aussi intéressant... avec la question de la précision et juste agencer, mettre les choses côte à côte, c'est que, en fait, la violence, si on écoute vraiment, et c'est pour ça que moi j'ai vraiment l'impression de faire une poésie de l'écoute, c'est juste essayer d'écouter ce que la langue dit, et elle le dit, il n'y a quasiment pas tant que ça de travail d'écriture à certains endroits, parce que de fait, on met la phrase sur une phrase, en fait. Sur une page, pardon, on voit directement la violence de l'affaire. Enfin, en fait, c'est tout. À un moment donné, il y a des archives du paysan breton. Enfin, tout. En fait, c'est fou, quoi. C'est tout. Tout est dit et comme si on voulait pas entendre. Et moi, du coup, c'était travailler la langue, cette langue qui est par ailleurs super riche en plus. Enfin, en tout cas, d'un point de vue quasi purement littéraire, en fait, elle est tellement dense, en fait, tellement polysémique, tellement là, partout, tout le temps, mais la travailler pour qu'on réussisse à entendre ce qu'elle dit, en fait, je pense déjà. Mm-hmm. Donc mais moi, l'écriture, ça, c'était oui. Quasiment juste de tendre l'oreille, quoi.
Mais oui, d'éclairer. Enfin, d'éclairer dans le sens de mettre
ouais.
Le nez dessus, en fait, les yeux dessus.
Bah, en fait, qu'on puisse plus ne pas voir, quoi. Il y avait un truc comme ça. Mais tout c'est en vrai que... laissant la complexité à la langue aussi, qui dit mille choses, mais enfin, c'était vraiment ce travail-là.
À un moment donné, il va commencer à y avoir, j'ai envie de dire spontanément, des dérapages, et en même temps, c'est pas exactement ça. C'est-à-dire que les mots vont commencer un petit peu à bouger, en fait. Tu vas vraiment... montrer ce que tu viens d'expliquer, c'est-à-dire qu'un même mot, par ses sons, par la façon dont on l'écrit, qu'on l'écrit dans son orthographe, mais aussi qu'on l'écrit sur la feuille, comme tu peux faire, peut avoir plein de sens différents et on peut jouer avec ces mots.
Bah, l'exemple le plus flagrant est au départ, y a évidemment le titre « Mon corps de ferme ». Voilà, si on le découpe un peu, j'ai l'impression qu'il est déjà bien compact. Mais aussi l'exploitation familiale, qui est quelque chose de courant qu'on dit tous les jours. Mais en même temps, bon, exploitation... Enfin voilà, et si on met juste ce mot-là sur une page, bah tout à coup... Enfin l'idée en tout cas, c'est qu'on réussisse à entendre ce qu'il y a finalement de... Ouais, de violent, rien que dans ce terme-là, exploitation familiale. Et en vrai, en tout cas la langue que moi j'ai choisi d'utiliser, cette violence, j'ai l'impression qu'elle est... Elle est partout, partout.
Quand tu dis choisi,
ouais.
C'est-à-dire que pour ce projet d'écriture, tu as vraiment l'impression d'avoir cherché une façon d'écrire propre à ce déroulement-là, où tu dirais que c'est... Parce que quand on parle de poésie, on aurait tendance à imaginer des poètes et poétesses qui ont une langue.
Bah, c'est mon premier livre, donc je ne sais pas comment j'écrirai le suivant. Mais en tout cas, je trouvais ça chouette, la poésie, parce que ça est important. Bah, déjà, la précision, la complexité. Et d'une certaine manière, pour moi, je crois que c'est un milieu... L'objet, en tout cas, de mon travail, c'est vraiment un milieu qui... C'est comme s'il y avait très peu d'accès à la lecture, à l'écriture. Et je trouve que la poésie, c'est comme si c'était... le point ultime de la lecture et de l'écriture dans le sens écoute et qu'est-ce que je fais de cette écoute-là, quoi. Un truc comme ça, extrême. Et j'avais envie de ça. Et qui est par ailleurs aussi à l'opposé de l'agriculture productiviste, quoi. Il y a un truc comme ça, du sur-mesure, du jeu qui est là, de l'extrêmement vivant, qui me... C'était comme apporter un soin à un endroit qui n'aurait jamais été soigné, quoi.
Est-ce que tu voudrais nous lire quelques pages?
Ouais.
Parce que là, on a parlé de langue et je crois qu'il est temps. Il est temps de t'entendre.
Je peux vous lire le début. Le tablier noué, les couteaux aiguisés. L'évidence glisse autant qu'elle tâche. Je t'engraisse, tu m'engraisses. Don contre don, façon cochon. Au petit matin, dans la cour, un cochon qui ne connaît pas le petit chat, qui n'a même jamais entendu parler de lui, un gros cochon est mort. Sur le gaz, le beurre roussit les abats. Entre les joues veineuses coupe rose, l'alcool et le sang goûtent au menton. Pour sa pause, le boucher boit la sauce. Dans le hangar devenu boucherie, les femmes solides tournent la manivelle, remplissent les intestins avec la farce, rendent le cri du sacrifice comestible. Jacques, jeunesse agricole catholique. Jacques a dit, cultivons notre esprit d'entreprise. Jacques a dit, buvons notre tasse comme les autres. Jacques a aussi dit, cochon qui s'en dédie. Au tout début des années 50, un géographe français gars du coin déplore le déficit de modernisation et la mentalité paysanne. Il tire les cartes, puis il écrit « Il faut faire aimer l'argent aux paysans ». Entre 55 et 75, lui et ses camarades défendent le remembrement, une opération foncière qui permet de rassembler des parcelles pour faciliter la motorisation de l'agriculture. Les prés deviennent carrés. Au départ, avant le certificat d'études, Alexis Gourvennec exige de manger tous les jours à la cantine des patates. Les patates qu'il ramasse à quatre pattes. Les patates se transforment en patates. Le syndicaliste fait la une de Paris Match. À la fin, paysan directeur général. 65 salariés, 550 hectares, 8500 truies. Une entreprise piscicole et aussi un élevage de porcs au Venezuela. La purée s'achète en poudre. Si les enfants sont bosseurs, certaines exploitations familiales font des exploits. En 1976, 67 ans après les salariés, les paysannes ont un congé maternité. 14 semaines pour les salariés, contre 14 jours pour les paysannes. En 1986, le congé est allongé. 16 semaines pour les salariés, contre 8 semaines pour les paysannes. À minima, l'élevage s'annonce intensif. En février 86, un cri perce les couches de neige. C'est l'isolement d'une mère qui s'ignore totalement dans sa chambre d'adolescente. Il se passe quelque chose de sanglant et d'inédit à la ferme. Un bébé craque le déni. Les corps de ferme catholiques tremblent sous les secousses de l'inattendu. Il faut nettoyer, ordonner, habiller, marier les jeunes gens, baptiser l'enfant. Bien comme il faut, sort sa faux. Au pas cadencé, expier la faute, damner les cons et surtout, 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 ne pas faire d'histoire. Malheureusement pour les non-dits et les on-dits, l'inédit, c'est moi. J'ai la sensation de le savoir depuis toujours, mais je l'apprends officiellement sur le tard, par téléphone. 30 ans de silence, ça laisse le temps de chercher ses mots. Pire que la fille interdite, la fille par ses mots dites. Mais du coup, juste pour revenir à ce que tu disais, parce qu'en me relisant, je me... En fait, c'est la quatrième rencontre, donc c'est marrant parce que je comprends au fur et à mesure de ces rencontres ce que j'ai fait. Et du coup, par rapport à cette notion de régler ses comptes, en fait, si j'ai des comptes à régler, c'est avec le silence. Mm-hmm. Je pense que c'est vraiment ça que j'ai voulu faire, en fait. Avec le silence lié au monde agricole, lié à l'histoire de ma naissance. Comme du coup, on comprend que je suis née d'un déni de grossesse totale. Et je l'ai appris très, très tard. Et en même temps, c'est comme si je l'avais toujours su. Et du coup, c'est ça, peut-être, ouais, le silence qui est...
Le fait que tu naisses d'un non-dit, il y a quelque chose de quand même extrêmement fort, en fait, dans les cris de noter ça, tu vois. Mais pour autant, la parole, tu vas pas la récupérer réellement tout de suite dans le livre. Moi, j'ai vraiment senti que petit à petit, il y avait des endroits comme ça où tu nous refais des sortes de flashs d'existence de ton corps, de ce qu'il vit, de comment il est grandi, il évolue, etc. Et qu'il faut vraiment attendre la fin du livre pour qu'il y ait une sorte de parole libérée comme un flot, quelque chose qui coule, en fait. Tes dernières pages, elles coulent. Moi, c'est ce qui m'a, je pense, le plus bouleversée, c'est de te lire au fur et à mesure comme ça, à travers et en pas à pas.
Ouais, ouais, c'est ça. Bah, à un moment donné, pour moi, en fait, ce livre, à un moment donné, je parle de béaba, et en fait, c'est le chemin de comment, à un moment donné, on trouve ou on retrouve la parole. Donc, en effet, il y a beaucoup de silence au départ, mais c'est ce cheminement-là. C'est un livre sur comment on retrouve ou on trouve sa propre langue pour raconter sa propre histoire, qui est assez différente de celle qu'on nous a racontée a priori, sur différents plans.
Ce qui va être d'autant plus étonnant, c'est que c'est par ton corps que beaucoup de choses vont d'abord arriver. Donc ouais. Évidemment, mon corps de ferme, cette double idée. Il y a quelque chose, des doubles sens à chaque fois, comme tu l'exprimais si bien juste avant. C'est-à-dire que l'espace familial dans lequel tu es, on sent bien, est assez oppressant. Il y a quelque chose de ces non-dits, ce silence, etc. Mais il y a aussi un contexte physique, extrêmement physique, que tu es dans une industrie polluante, difficile pour ton corps d'enfant en devenir adulte, en fait. C'est-à-dire, tu nous dis clairement, donc, un mélanome, quelque chose de... Il n'y a pas plus concret, en fait, que cette toxicité-là, à ce moment-là. Est-ce que tu dirais que c'est vraiment un endroit de réveil?
Bah, en fait, en tout cas, d'avoir comme ça une maladie où on peut tout à coup mourir, dont on peut mourir en 6 mois, c'est en fait, bah, y a un truc d'être face à la condition humaine. Et en vrai, enfin, y a deux possibilités, soit on sécurise tout, et enfin, j'ai l'impression en tout cas, ça a été comme ça pour moi et. Et on a peur de tout, soit on se dit bon bah voilà, enfin il y a un truc aussi finalement qui détend quoi, de ah ouais bon en fait, bon clairement si je l'avais pas, je le savais pas avant, je suis franchement mortelle, tout le monde ici est mortelle, j'ai un temps à partie dont je peux pas décider qu'est-ce que je fabrique quoi. Et par exemple, en tout cas moi ça me permet, même si c'est pas facile parce que depuis là où je viens, depuis le milieu dont je viens, enfin l'accès à l'écriture, c'est super loin, quoi. C'est vraiment loin. C'est à cette écriture-là qui se, à la singularité d'une écriture, c'est un truc ouais très étranger. Et en même temps, du coup, de savoir que tout ça va s'arrêter à un moment donné, ça donne envie de jouer au maximum, quoi. Et que finalement, ouais. Enfin, il y a un truc aussi très très chouette dans le fait d'avoir un diagnostic comme ça, effrayant. Enfin, un truc, un rapport à la vie où, je sais pas, en fait, cette finitude-là, elle peut aussi être, en tout cas dans mon cas, et aussi parce que j'ai eu tellement de chance, en fait, j'ai eu beaucoup de chance, de savoir. Enfin, d'être, de pouvoir se dire que cette finitude, elle était vraiment concrète. Il y a un truc aussi de, ouais, on n'a plus envie de se mentir en fait, et on a envie de faire exactement ce dont on a envie, d'être au plus proche de ça. Et du coup, quand on n'est pas là, ça devient insupportable en fait. Donc par exemple, je pense que je tournais autour de l'écriture sans me le dire ou en me le disant plus tard. Bah là, il y a un truc d'urgence, c'est maintenant, parce qu'en fait, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer demain, quoi. Tout peut arriver. Enfin, surtout moi, j'étais vraiment dans une situation... Enfin, pour le coup, j'étais vraiment dans la salle d'attente, littéralement en train de finir d'écrire la programmation d'un festival. Et là, je vois la tête de la médecin et je comprends que ça ne va pas... Enfin voilà, que ça ne va pas se passer comme prévu l'été, finalement. Et c'était vraiment fin juillet, je me revois, et puis vraiment, pour moi, c'était un truc très, très banal. Enfin, surtout, il ne pouvait rien m'arriver. Je croyais qu'il ne pouvait rien m'arriver.
Le process de lecture n'est pas toujours identique et souvent très différent au processus d'écriture. C'est-à-dire qu'on se fait nos propres narrations, nos propres fictions. Pour moi, en fait, quand je t'ai lu, j'ai cru que c'était pendant que tu vivais à la ferme que tu vivais ça. Non. Et que ça avait participé à un certain réveil et une sortie d'urgence, en fait, tu vois.
Non, mais je pars de la ferme enfin, dès que je peux, à 18 ans, pour faire des études, quoi. Je fuis, je m'occupe pas du tout de ce sujet. Enfin, il y a un truc comme ça assez... Bah, après, du coup, je suis végétarienne dès que je peux, assez rapidement. Mais c'est assez cloisonné. En fait, on cloisonne pas la vie comme ça, quoi. Et il y a un truc... Enfin, en tout cas, cette maladie, elle me rappelle ça. Que, en fait, je suis entière... faite de ces 18 premières années, mais tellement en plus, quoi. Ouais.
C'est extrêmement intéressant, parce que là, on était sur le sujet de ton corps, mais comment d'autant plus, en fait, il a eu un rappel à toi. Est-ce que tu dirais peut-être de faire une certaine clôture avec ce livre ? Enfin, en tout cas, de faire un point. Si ce n'est pas de régler des comptes ou de défendre, etc. Mais en tout cas...
Non, moi, enfin, surtout pas clôture. Franchement, okay. En plus, du coup, le clôture... mais ouverture, ouverture, en fait.
Ouais.
Ouverture de tout, quoi. Et j'ai compris que finalement, je pouvais pas... Enfin, ma seule manière... Je pouvais pas sortir de mon corps de ferme, parce qu'il a été fabriqué dans cet endroit-là. Mais sortir du silence, qui est un des gros symptômes, je pense, du monde agricole. Énorme.
Oui, tu notes... La ferme me lâche, je sors de terre. Là, c'est ça.
Ouais, c'est ça, ouais.
C'est exactement ça. T'as tes deux endroits très forts. C'est d'une certaine manière dire la ferme et la laisser aussi peut-être un peu partir.
Ouais, complètement. Enfin, un peu partir et en même temps, enfin, en tout cas, en moi, ça se rejoue en permanence. Enfin, vraiment, on n'échappe ni ni à la ferme, ni à son enfance. Donc, il y a un truc de lutte permanente avec cette histoire de silence-là. Ouais. Qui, en même temps, c'est aussi les polarités, quoi. Du coup, quand on est dans ces conditions, dans un tel monde de silence, du coup, il y a un désir de parler qui est énorme, ou de faire parler, ou de créer les conditions pour que la parole, elle se diffuse. Enfin, c'est explosif, quoi, cette tension-là.
Mais oui. Mais en fait, plus on te lit, plus en fait les sens sont en tension. C'est-à-dire que, en fait, à chaque fois que j'ai envie de dire quelque chose, je me rends compte des doublons en fait possibles, du dédoublement possible. Et je me dis que ça doit être assez intéressant maintenant que ça c'est fait, maintenant que ça c'est écrit, de voir comment on vit avec ces deux tensions-là, ces deux endroits-là.
Ouais, complètement. Bah, c'est sûr que le prochain texte sera très différent. Je rigolais hier soir avec des personnes qui sont dans la salle en disant j'aurais aimé écrire un livre queer et sexy et puis c'est raté pour cette fois, mais peut-être le prochain.
Et il fallait, faut aller dans l'ordre, hein, Aurélie. On fait une chose à la fois et se préparer pour la suite. Il n'y a pas de souci. Ouais. En tout cas, la franchise sera là pour le queer et le sexy. Aucun problème. Tout comme elle a et j'ai adoré... lire ton texte. Félicitations.
Merci
beaucoup d'être venu nous voir. Alors, heureuse ? Vous venez d'écouter un nouvel épisode de l'Affranchie Podcast en compagnie d'Aurélie Olivier à l'occasion de la parution de son ouvrage « Mon corps de ferme » aux éditions du Commun. L'Affranchie Podcast, c'est Soazic Courbet à la réalisation, Pierre-Antoine Naline à la création sonore et Chien Fou pour l'univers graphique. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes avec l'Affranchie Podcast.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.